Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un brin d'histoire, je vais vous parler de Bernard Palissy. Maître Bernard Palissy, comme l'appelaient ses contemporains, était fils d'ouvrier ou paysan, curieux de tout, puisant aux sources les plus diverses de la science de son temps. Il acquiert, grâce à des dons très rares, servis par une volonté persévérante, un savoir encyclopédique d'un caractère tout à fait insolite à cette époque, car il devait, non à l'étude des Grecs et des Latins, mais à sa propre expérience et à l'observation. C'était un inventeur né, d'esprit un peu chimérique, incapable peut-être de monter industriellement une affaire, mais hardi dans ses conceptions, désintéressé, épris de nouveautés, vivant pour son art, alors que cet art ne le faisait pas toujours vivre. Un grand bonhomme en vérité, bien supérieur à ce que l'on imagine. C'est cet autre que je voudrais faire revivre et présenter de telle façon qu'on le voit comme il était, chef d'atelier, mais aussi chef d'école, un philosophe à la manière antique, professant dans son jardin. Il est né aux environs d'Agen, au creux d'un de ces vallons accueillants où tant de grands esprits de la Renaissance italienne ont cru retrouver dans l'exil la douceur virgilienne de leur patrie et son climat spirituel. On a découvert aux confins de la Genêt et du Périgord une tuilerie de Palissy, dans la commune de la Capelle-Biron. Aucun document authentique ne porte mention non plus de son décès, bien qu'il soit mort à la Bastille en 1590. Palissy ne nous apprend pas grand-chose sur ses débuts. On croit qu'il fit son apprentissage chez un peintre verrier, qui assemblait les éléments des vitraux, mais ne les fabriquait pas lui-même. Nous ne savons pas ce qui le décida, d'ailleurs, de s'arrêter à Saintes. Toujours est-il qu'il y élut domicile et s'y maria. Il s'improvisa arpenteur-géomètre. Il aurait largement gagné sa vie si plusieurs naissances successives n'avaient augmenté ses charges outre mesure. Peut-être aussi le bon Palissy n'est-il pas très pratique. Il dépensait temps et argent à enrichir sa mémoire d'un fatras de connaissances. Ainsi, ne croyait-il pas qu'il y a identité entre les fossiles, ces jeux de la nature et les animaux marins qui vivent dans l'océan tout proche? N'a-t-il pas forgé une théorie de la cristallisation qui, si elle avait été acceptée, aurait mis toute la science en défaut? À l'en croire, l'eau des fontaines jaillissantes et des puits artésiens provenait des nuages, et les chercheurs en avance sur leur temps sont généralement pris pour des fous par les gens ordinaires. Mais il faut reconnaître en revanche qu'ils ont parfois bénéficié de la protection des grands. Et en 1543, le duc de Montmorency, ayant à faire lever le plan des îles et des marais salants en vue du rétablissement de la gabelle, eut l'occasion d'employer les talents de Palissy. Il ne tarda pas à le distinguer et ne cessa jamais de le protéger. Au même moment, se produit une seconde intervention du destin. On lui met entre les mains une coupe émaillée fort belle. Et la vue de cette œuvre d'art lui procure la révélation soudaine de ce que sera sa vie. Il s'aperçoit à 34 ans qu'il y a mal donne. Il va se mettre à l'apprentissage, à travailler 20 ans, à reproduire cette fragile merveille. Il se présente dans l'art et dans la science comme un indépendant. À une époque où pareille attitude réclamait plus de courage, un véritable héroïsme. Mais cet indépendant n'a rien d'un affranchi, car il s'abstient de conclure chaque fois qu'il risque de se trouver en contradiction avec la Bible. Quoi qu'il en soit, il abandonne chaîne, équerre et planchette et se lance comme un furieux dans l'étude de la chimie. Armé de ses yeux, de son bon sens, préservé de l'erreur par son ignorance intégrale, le jargon de l'alchimie médiévale l'a tout de suite rebuté, tandis que la nature lui parle une langue qui touche son cœur et satisfait sa raison. Il se met à son école. Il ne faut pas demander de mesure à Palissy. Son enthousiasme donne du vertige. Le but qu'il envisage l'éblouit à ce point qu'il ne voit pas la gêne, la misère même, s'installer dans son foyer. Ses enfants disparaissent l'un après l'autre. Il en perdra 6. Chaque fois qu'il referme son four, son espérance se renouvelle. Quand il l'ouvre, catastrophe, tout est à recommencer. Pourtant, chaque tentative marque un léger progrès. Vers 1546, il se convertit au calvinisme, avec excès naturellement, avec ostentation. Il se montre, il prêche. Aussi lorsque, en 1557, le pasteur Philippe Hamelin est arrêté et conduit à Bordeaux pour y subir le supplice. C'est à lui qu'il confie le troupeau des bandits. Palissy organise la résistance armée. Il dresse même le plan des fortifications qui seront celles de Saintes, une ville inexpugnable. Tous ceux qui se sont compromis, Palissy en tête, partent ensuite sous bonne escorte pour Bordeaux, voyage dont personne n'est encore revenu, ils le savent bien. Mais de hautes interventions se produisent en faveur de Maître Bernard. Antoine de Ponce part pour Bordeaux avec mission de le ramener sain et sauf. Il arrive à temps et lui sauve la vie. Nous retrouvons Palissy à La Rochelle. Imperturbable, il a repris ses travaux là où il les avait laissés. Il met de l'ordre dans ses notes et publie son premier livre, recette véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier et à augmenter leur trésor. Il donne les résultats de ses recherches en agriculture et chimie, à la suite de quoi il ajoute pêle-mêle un travail sur le parc de Chaulnes qu'il a dessiné. L'histoire des églises réformées en Saintonge et le plan de la forteresse inexpugnable que nous connaissons déjà. Par ailleurs, il y a 20 ans qu'il travaille à ses terres émaillées. Son procédé est à point. Le duc de Montmorency, toujours lui, lui confie la décoration d'une grotte artificielle dans le jardin de son château d'Écouen. Et subitement, c'est la fortune, la haute société, la bourgeoisie, qui prennent modèle sur la cour, achètent ses plats, ses rustiques figulines, comme il les appelle. Catherine de Médicis emploie ses talents dans l'aménagement du jardin des Tuileries. Il se fixe à Paris. On le suit au faubourg Saint-Honoré, rue Vaugirard, proche du Petit Luxembourg, et peut-être rue du Dragon. En 1572, il parcourt les Ardennes et le pays de Liège, échappant une fois de plus au massacre. Mais la Saint-Barthélemy a creusé un abîme entre les catholiques et les protestants. Peu à peu, son crédit diminue. Dès 1576, un témoin nous rapporte que sa grotte des Tuileries tombe en ruine. La création de la fortune, Actéon changé en cerf, la Madeleine au désert, la charité nue ou Vénus et la fécondité. Enfin, il est permis d'élever des doutes sur l'authenticité de beaucoup de ces poteries qui lui sont attribuées. On cite plusieurs fabriques françaises dont les productions souvent remarquables sont les contemporaines, à quelque chose près, des rustiques figulines. Plus tard, lorsque la personnalité de Palissy a été tirée de l'oubli, les plagiaires se sont mis à l'œuvre et il y en a eu de fort habiles. Il ne faut pas demander à un savant du XVIe siècle une grande rigueur scientifique. Le vocabulaire est indécis, les généralisations souvent imprudentes. N'oublions pas que Palissy écrivait un siècle avant Bacon, 2 siècles avant Cuvier, et qu'il a eu le mérite de les annoncer l'un et l'autre. Avant de porter un jugement sur son œuvre, lisons ses contemporains. Il n'y a rien à perdre à leur être comparés. Fontenelle, Jussieu, Buffon se sont réclamés de lui. Cuvier a écrit, il a deviné plusieurs des grandes lois géologiques qui sont les fondements de la science moderne. Il est enfin avec Montaigne, Calvin, Ambroise Paré et Olivier de Serres l'un des fondateurs de la prose française. Sa langue est pittoresque, familière, vivante, explicite. On y chercherait en vain une influence étrangère, même latine. C'est peut-être un Gaulois, aimant ce paysan têtu pour avoir affirmé sa fidélité au clair génie de notre race. La publication des Discours admirables est la dernière trace que l'on puisse recueillir de l'existence de Palissy, jusqu'au moment où il mourut, miné par l'âge et les mauvais traitements subis à la Bastille. On prétend qu'Henri III vint lui proposer dans sa cellule d'acheter sa liberté au prix d'une abjuration. Nous souhaitons d'avoir réussi à dégager de cette vie de labeur acharné ce qui fait son admirable unité, la lente formation de l'artisan studieux qui finit par s'affirmer artiste et l'évolution de cet artiste vers les régions supérieures de la connaissance et son pressentiment d'un ordre universel encore ignoré, dont il décèle l'action sur les matières brutes qu'il expérimentait. Enfin, l'épanouissement du savant et de l'écrivain. Il y a, dans le destin de Palissy, quelque chose de plus haut encore. Pourquoi en gardons-nous une impression confuse qui surpasse la plupart des génies, dont cette époque est éblouissante, dont elle fourmille? C'est que, au-dessus des dons de l'esprit, nous plaçons certaines valeurs spirituelles dont l'humble potier surabonde. Sa vie fut exemplaire. Aucune ombre ne la dépare. À aucun moment de sa longue vie, il n'a cessé d'être héroïque, et jamais il ne s'en est rendu compte. Nous nous devions de parler de ce grand homme qui est né dans l'Agenais et que nous avons connu dans les livres d'histoire. Merci et à la prochaine émission. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.